Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de Sugar Free. Je suis Areski Sugar et je parle actuellement, et c'est ce qui va se passer pendant tout cet épisode, je vais parler de la vie et vous donner la lumière. J'ai envie de commencer par remercier toutes les personnes qui ont écouté les deux premiers épisodes, qui se sont abonnées, qui m'ont envoyé des retours sympas. Il y a même des gens qui ont déjà mis leurs 5 étoiles et leurs commentaires sur l'Apple Podcast, c'est vraiment ça. Merci beaucoup, j'en avais parlé lors du premier épisode et c'est vrai qu'il y a vachement besoin de ça en fait pour tout simplement exister pour un podcast. Donc n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles et un commentaire cool sur Apple Podcast. Pour tous ceux qui ont l'iPhone, c'est assez facile, c'est sur votre appli. Et comme je disais, pour ceux qui ont Android, bah c'est plus compliqué. D'ailleurs, moi-même, j'ai pas réinstallé iTunes sur mon PC depuis 2012. C'est un peu difficile pour moi de noter mes propres podcasts, alors que ce serait un 5 étoiles facile. Mais ça ne me fait que remercier encore plus ceux qui l'ont fait, notamment un Thomas. Alors, je vais peut-être pas l'afficher, parce qu'il y a peut-être son vrai nom de famille sur l'Apple Podcast, mais Thomas qui met « J'aime t'écouter, je t'aime ». Écoute, je ne sais pas qui tu es, mais je t'aime aussi, car tu as d'excellents goûts. Et pour tous ceux qui sont un peu plus flemmards de faire ça, au moins, allez liker la page Sugar Free, que ce soit sur Instagram, Facebook, etc. Et puis juste, en fait, écoutez, hein, abonnez-vous au podcast, écoutez, et envoyez-moi des messages, en fait, si vous avez des trucs à redire. J'ai envie un peu de m'énerver, là. Dans ce podcast, parce que en fait, je reviens d'une sortie avortée vers des tâches administratives à faire. Alors, il faut savoir que je suis très procrastinateur. Du coup, je repousse au maximum les trucs à faire qui sont chiants. Mais une fois que j'ai la motivation pour le faire, c'est une pierre tellement énorme à mettre en branle juste avant la falaise que si les choses se passent pas comme prévu en fait à l'extérieur, ça me fait hautement chier. Et là, c'était débile, j'avais pas énormément de choses à faire, mais c'était juste que je voulais aller à la banque encaisser un chèque. Il y a une putain de machine qui est faite pour déposer un chèque. Donc, ok, le samedi, je sais que les banques sont fermées à cause des gilets jaunes. D'accord, admettons. Mais pourquoi ils peuvent pas rouvrir le dimanche? Je veux dire, j'ai besoin de personne. Pourquoi j'ai pas accès à la machine, en fait? Je veux dire, tu me laisses accès aux autres machines qui permettent de retirer mon argent. Pourquoi est-ce que je peux pas déposer mon argent, en fait? Ça me saoule quand on a une technologie où on a un service qui est offert que par des machines, mais que c'est pas disponible 24 heures sur 24. C'est quoi le projet de ça? Le projet de faire semblant que genre les machines doivent dormir, en fait. Non, je peux déposer mon chèque quand je veux. Ah oui, non, désolé, notre machine à dépôt de chèque a pris des RTT ce week-end. Elle est partie à Casioland avec ses petites calculatrices. Ferme ta gueule, en fait. Je sais pas d'où elle vient cette réticence à ne pas utiliser tout notre potentiel technologique. Et encore là, je vais même pas dans genre créer des super machines. Je veux juste dire pourquoi tu donnes pas la disponibilité de trucs qui existent déjà, qu'on utilise déjà, mais que tu utilises pas les avantages de cette technologie qui est que bah, ça se repose pas et tout est là, quoi, tu vois. Comme s'ils essayaient de nous faire penser que derrière chaque machine de dépôt de chèque, tu sais, il y avait quand même un gars qu'il fallait recruter pour qu'il relise tout, tu vois, alors qu'on sait très bien que c'est pas vrai, quoi. Ah oui, il y a Thierry, là, qui va lire tous vos chèques, hein, il va tout valider d'abord. Au début de ma vie professionnelle, j'avais laissé traîner un chéquier perso chez mes parents. Mon père avait pas vu, il a fait un chèque avec mon chéquier et sa signature en croyant que c'était son chèque à lui. Je peux vous dire, le chèque, il est passé crème et c'est moi qui ai été débité, en fait. Donc si ça peut rassurer des faussaires là qui nous entendent, sachez que personne ne regarde les signatures. Je pense que c'est lié à ça, mais il y a un truc que je déteste, c'est les gens à qui tu parles de voitures autonomes et qui sont là genre « Ah non, hein, moi je pourrais jamais faire confiance aux voitures autonomes. Hein. Ouais, j'aurais quand même toujours un problème, je voudrais vraiment toujours tenir le volant parce que c'est plus sûr, je suis plus en contrôle. » Mais mec, t'es en contrôle de rien du tout en fait. La voiture autonome, elle va jamais prendre le volant à 23h30 en disant « Ouais, mais c'était que deux bières quoi. » Mais juste intellectuellement parlant, quand on te dit, genre avec des stats, qu'une voiture autonome fait moins d'accidents qu'un humain, mais que toi, tu me dis « Non, mais je préfère quand même que ce soit un humain qui conduise la voiture », ben ça me prouve justement pourquoi ça devrait être une voiture autonome, en fait, qui devrait s'autoconduire. Déjà, c'est ce qu'on laisse faire avec les avions, par exemple. Tout le monde dit que quasiment 100% d'un vol en avion est réalisé par le pilote automatique. D'ailleurs, tu vois tous les crashs qu'il y a. Franchement, tous les crashs qu'il y a, c'est toujours « Ah bah ouais, mais c'est parce que finalement, le copilote, en fait, il a fait une connerie. » Les gens, ils ont tellement un problème avec les statistiques parce qu'ils se croient au-dessus des statistiques, en fait. Tu sais, quand tu leur dis « Oui, non, mais tu comprends que 70% des gens vont faire ça. » « Oui, mais ils vont pas me le faire à moi. » Ben en fait, si, t'as 7 chances sur 10 qu'ils te le fassent à toi, en fait. Ouais, mais pas à moi, quand même. Je suis pas en train de faire l'apologie des robots et dire qu'il faudrait tous qu'on soit des robots. Je dis juste, en fait, on les a créés, donc autant épouser le truc, en fait. Se détendre sur le truc. Personne ne te dit « Ouais, mais les fourchettes, je fais pas trop confiance, quand même. » Ça pique, hein. C'est une création de nous, tout va bien. D'ailleurs, les gars, c'est les dernières années pour vous occuper d'arrondir vos fins de mois avec des jobs de Uber, hein, parce que ça va bientôt être fini. Hein. Et ça, c'est marrant parce que ça va probablement pas être un sujet de débat aux prochaines élections présidentielles en France. Le fait que on est vraiment sur le virage où d'ici 5 à 10 ans... Oui, parce que là, ça y est, je suis passé en mode prophétique. D'accord. Attention, sugar free prophétisation. Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire plusieurs, en fait, dans tous mes podcasts. Et dès qu'il y a un truc qui se révélera vrai, bam, je ressortirai le vieux podcast et je pourrai vous dire, ah, je vous avais dit, futurologue. Bon, derrière, ce que je vous dis pas, c'est que je ferai probablement des milliers de mauvaises prophétisations. Mais ça, personne n'en parlera jamais. Et ça marchera sur le nombre. Oui, tout ça pour dire que les prochaines élections présidentielles, on ne parlera pas du fait qu'il y aura une grosse partie des jobs peu qualifiés qui vont être remplacés par des robots avec l'avènement de l'intelligence artificielle, les voitures autonomes, les trucs comme ça. Mais il y aura de gros problèmes en fait qui vont arriver quand tous les routiers vont se rendre compte que leur job ne sert plus à rien. Le premier transporteur routier à qui tu dis... On a un conducteur pour vous qui ne s'arrête jamais, qui est tout le temps lucide, qui a des yeux à la fois devant, derrière et sur les côtés, qui va klaxonner zéro meuf quand elles sont en jupe. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il garderait des conducteurs humains, en fait. Le problème étant que, voilà, moi, si je suis routier, que ça fait 15 ans que je suis dans ma boîte, et qu'on me dit du jour au lendemain, mais en fait, tu ne sers plus à rien, si c'est pas un problème que tu gères un petit peu à l'avance... Tu vas te retrouver avec des autoroutes barrées pendant pas mal de temps. Et là, les gilets jaunes qui t'empêchent d'aller chez Uniqlo le samedi à 16h30, ça va être un problème beaucoup moins chiant. Je sais qu'il y a quelques mecs qui commencent à en parler chez les candidats aux présidentielles américaines de 2020, notamment Andrew Yang. Et je trouve ça toujours marrant quand il y a des sujets dont on ne parle pas qui vont être vraiment les vrais problèmes. Mais ouais, mais t'as juste pas envie d'en entendre parler parce que c'est pas hype dans les médias qui créent le sujet du moment. En plus, ça sonne tellement geek comme problème. Les robots vont nous voler du travail. Parce que là, vous comprenez, on atteint un niveau... Bon, l'intelligence artificielle, donc c'est un ordinateur qui va apprendre par lui-même, etc. Tu vois déjà que le gars qui commence à expliquer ça, il commence à mettre des lunettes et une veste en tweed. Et qu'il est en train d'écrire des trucs sur un tableau Velleda. C'est pas assez sexy comme problème, tu vois. Après, c'est pas mon problème. Hein. Ça va toucher d'abord les gens peu qualifiés, mais bon. Ça mettra un poil plus de temps avant d'arriver à certains jobs. Et encore. Il y a des trucs comme radiologue, par exemple. Dermato aussi. on se rend compte que voilà, on est en train de créer des logiciels qui savent mieux en fait diagnostiquer tout ce qu'il y a à diagnostiquer, quoi. Parce que forcément, si tu mets des milliers et des milliers de photos dans une base de données et que tu caractérises à chaque fois les photos, ben, un ordinateur, ça va trouver d'infimes similarités là où l'œil humain va parfois faire une connerie. Après, bien sûr, ça ne nous remplacera pas totalement. Il faudra quand même quelqu'un qui comprend le système général de la biologie. Mais ça peut être comme tout ce qui est un peu plus automatisé. C'est-à-dire que tu vas passer d'un service à une personne à l'hôpital, par exemple. En gros, un plan de traitement, il faut que ce soit fait par un humain, mais après le reste. Alors, pour parler de ce que je connais à peu près, en dentisterie, je parlais déjà, ancienne prophétisation, pendant mes études, du fait que, si tu arrives à stabiliser une tête de quelqu'un, un robot pourrait faire mieux ton travail, parce que si tu lui donnes un scanner de la tête du patient, il pourrait placer des choses exactement au dixième de millimètre. Et en fait, il y a maintenant 3 ans, je pense, un robot chinois qui a posé les premiers implants sur l'implant dentaire, je veux dire, sur une mâchoire d'un patient. Et effectivement, les résultats sont meilleurs par rapport à une personne même expérimentée qui fait ça avec ses mains. Et là encore, je sais que quand j'en parle même avec d'autres praticiens, qui peuvent me dire, j'ai pas envie de me faire soigner par une machine, même si elle est pilotée par un médecin, un dentiste en l'occurrence. Donc j'imagine que si tu en parles aux patients, ça doit être pire encore. Mais encore une fois, je ne vois pas le truc. Par exemple, alors je sais pas ceux qui ont déjà pu avoir une chirurgie de la myopie. C'est un laser en fait qui fait des trucs. L'ophtalmo, il ne fait que rentrer ta putain de myopie, 2-3 conneries de surface, et encore c'est juste des données, genre une disquette qui pianote sur un truc, c'est le laser fait tout, c'est au nanomètre, tu vois. Il n'est pas en train de modéliser la lumière sur un truc en mode Minority Report pour que tu vois plus net. Non, et c'est le laser qui fait tout. Toi, tu sens un petit peu le cochon grillé, bam, tu fermes les yeux, tu repars. Et tu peux enfin voir tout net à la plage. Et pas avoir tous les souvenirs de plage floutés comme avant. Putain, je devais me repérer aux couleurs des parasols pour retrouver ma famille. En fait, moi, dès que je vois une connerie passer dans un magazine en disant « Ouais, on a découvert ça, on a créé ça », ça me fait juste chier au plus haut point de me dire que je vais devoir attendre 5 à 10 ans avant que ce soit utilisé dans les trucs qui comptent dans la vie. En fait. Parce que derrière, ça doit passer par une barrière mentale de 300 personnes qui vont dire mais non, ça marchera jamais. Tous les gars en 93 en France qui disaient ouais, internet, je leur donne pas 6 mois. Le Minitel, c'est là où il faut continuer à investir, les gars. Et ça sous-tend toujours un petit dédain pour la science, en fait, je trouve. Un petit dédain pour la science et la technologie, un point où je sais pas, les gens se rendent pas compte de l'effet que ça a ou que ça peut avoir sur leur vraie vie. Du coup, ça sort totalement du débat public. Et là, je vais, deuxième prophétisation de la journée. Mais un truc très important, la génétique, par exemple. On fait des progrès, mais incroyables en génétique en ce moment. Personne n'en parle vraiment, en fait. Et ça aussi, on se rend pas compte à quel point ça peut être ultra pernicieux. Juste le moment où la technologie va être un peu trop abordable, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vont se faire bifler. Et pas par de la génétique genre active, pas le gars le scientifique chinois là qui a créé, je sais pas si je vous l'apprends, mais je vous le dis, il a créé les premiers humains génétiquement modifiés qui sont immunisés au VIH. Ce sont des jumelles chinoises qui sont nées. Alors il a été désavoué par son université en Chine, mais bon, il y a jamais eu vraiment de discussion bioéthique sur ça, ni internationale, et encore moins chinoise. On va revenir sur la génétique active, on va dire. Juste si on prend le truc passif. Je sais pas si vous avez entendu parler des trucs qui s'appellent 23andMe. Je sais que ça commence à exister en France. 23andMe, c'est par rapport au nombre de chromosomes, paires de chromosomes en l'occurrence qu'on a. Ou en gros, c'est une société à la base américaine qui t'envoie un petit kit où tu prends un coton-tige et tu te racles l'intérieur de la joue. Et du coup, ça prend tes cellules avec donc ton ADN, tu renvoies tout ça et il décode ton programme génétique, quoi. Code génétique, pour le décoder, juste pour info, genre début des années 90, c'était le truc qui coûtait 3 milliards d'euros, où il y a eu plusieurs pays qui ont fait ça. Maintenant, ça coûte 300 euros, quoi. Et t'envoies le tout, alors le truc fun, alors spécialement pour les Américains qui sont trop en mode avidité de leur histoire, puisque leur pays a 4 ans, donc ils sont trop en train de « Oh, suis-je l'héritier de Louis XIV ?» Ou en gros, c'est savoir combien de leur matériel génétique vient de où. En gros, alors là, j'ai 14% de sang irlandais, 2% de Samoan, voilà, ils sont contents et ça leur fait des trucs à dire dans leur bar hipster. Après, essayer de passer le moins possible pour une personne 100% blanche, du coup ça les dédouane de tous les noirs qui se prennent des balles dans le dos dans leur pays, quoi. Bref, ça sert du coup à avoir ton origine plus ou moins. En gros, on retrace un peu les lignées, te dit de quelles ethnies plus ou moins t'es composé. Alors je sais pas si c'est parce que je suis méditerranéen vu que je suis né en Algérie, où je me dis, de toute façon, moi, si j'envoie le truc, tu vois, ça va revenir, ça va être, bon, ben, vous êtes 100% de l'huile d'olive. Tu vois, tu sais que tout le bassin méditerranéen, c'est là depuis plus de 4000 ans. Donc tu dis, bon, quelque part, on sait que tout le monde a violé tout le monde, on a tous un peu de tout le monde en nous, en fait. Tu sais qu'il y a des Vikings qui sont venus en Afrique. Clairement, quand tu vois la tête des Basques, tu te dis, bon, ben voilà, les Arabes ont pas tous disparu magiquement à Poitiers, tu vois. Bref, du coup, ça sert à ça, mais ça sert aussi à avoir des petits trucs intéressants, des petites connaissances intéressantes sur ton génome par rapport à ta santé. Il y a des intolérances qui peuvent être détectées génétiquement, il y a des propensions à avoir telle ou telle maladie. Du coup, tu peux, tu vois, faire des trucs en termes de prévention, mais tu peux aussi savoir quels aliments tu peux peut-être métaboliser le plus, etc. Mais bon, bref, en gros, les grosses avancées qu'on fait maintenant en génétique, c'est aussi le côté de savoir, grâce à ton code génétique à toi, bah, tes prédispositions par rapport à certaines choses. Du coup, pour revenir au truc sur comment, par exemple, ces petites avancées-là peuvent changer les choses. Avant que les voitures autonomes et les routiers autonomes arrivent, par exemple. Admettons que moi, j'ai une entreprise de transport routier. Alors, ça marche plutôt bien, je fais un poil de bénéfice, mais c'est pas ouf. C'est-à-dire qu'on est quand même au point où, genre, s'il y a un de mes routiers qui me fait faux bon ou quoi, ça peut être vraiment chiant. Mais au moins, là, ça va, je peux rembourser les mensualités de ma maison, le business juste fonctionne. On n'est pas en train d'avoir un bénéfice de ouf, mais ça va, quoi. Et là, il faut que je recrute quelqu'un de nouveau. Et il se trouve que, genre, une compagnie comme 23andMe, ils testent aussi ta prédisposition à garder ton sang-froid en cas de problème ou alors ta prédisposition à avoir des réflexes rapides, par exemple. Pourquoi pas ton acuité visuelle, genre au-delà du simple test. C'est-à-dire, par exemple, ah, peut-être que toi, tu vas coder pour plus de bâtonnets, donc que ton contraste va être encore meilleur. Admettons que j'ai accès à une espèce de base de données comme ça sur tous les CV, en fait, qu'on m'envoie. Et que je vois ces stats du futur employé et qu'elles sont bonnes. Parce que tout le temps, quand tu dis des trucs comme ça, quelqu'un va dire « Oui, mais je veux dire, il y a d'autres choses. Ça dépend de l'entraînement des gens, etc. » Ok, d'accord, le même entraînement. Ok, je vous parle de la même personne. Parce qu'en vrai, pour un job, en général, 90% des gens qui donnent leur CV pour un seul et même job, c'est les mêmes personnes. Faut arrêter de rigoler, quoi. Donc, 10 personnes qui sont à peu près les mêmes personnes, eh ben, il y en a un, voilà, je vois son truc génético, là, il a de bonnes stats. Clairement, j'ai pas envie de me faire chier, quoi. Statistiquement parlant, je vais avoir moins de merde avec ce gars. Et en fait, ça, c'est le début de créer des races, en fait. Et quand je dis des races, je suis pas en train de dire race comme Jean-Marie Le Pen dit race, tu sais, où il y a quand même une vidéo de lui qui dit espèce de roux à quelqu'un. Non, moi, je suis en train de vous parler de race en mode Tolkien. C'est-à-dire, on va se créer des hobbits, des elfes, des nains. Voilà, on va se créer ça parce que ça nous arrange dans le mode du travail. Parce que je vous explique, en fait. Spécialement en France, d'ailleurs, où il y avait une dernière étude qui a montré qu'il faut 6 générations pour qu'un enfant pauvre s'élève dans l'échelle sociale. En gros, il faut 180 ans pour que quelqu'un d'une famille en bas de l'échelle des revenus arrive au milieu de l'échelle des revenus. Et attention aux gens qui vont me donner des exemples de « Ah oui, mais il y a des gens, ils peuvent dilapider. » Oui, oui, ok, d'accord. Si j'ai bien marre d'un truc, c'est quand je dis quelque chose général et que quelqu'un vient me donner un contre-exemple particulier. Oui, je sais qu'un contre-exemple, ça existe. Je sais qu'il y a des gens, ils font pas de chimiothérapie et d'un coup, leur cancer part. Cool, good for them. Mais moi, je parle de tous les autres, en fait. Tous les autres que s'ils font rien, ils ont des putains de polypes qui leur poussent sur la tête, tu vois. Donc en gros, si tu commences à sélectionner génétiquement un routier et que le gars a un enfant, d'ailleurs c'est vrai que j'ai toujours considéré que j'ai dit routier, j'ai pas dit routière, mais je devrais dire les deux quoi. Et donc routier, routière, ils vont avoir un enfant qui va probablement, là encore à peu près statistiquement, bah du coup forcément avoir un peu les mêmes marqueurs génétiques et donc les mêmes prédispositions pour être routier. Si en plus culturellement derrière il a la culture du routier, c'est-à-dire que bah en fait en général toute profession, si t'es l'enfant de quelqu'un de cette profession, si tu baignes déjà un peu dedans, bah mine de rien t'as quand même un petit pied d'avance parce que tu vas forcément savoir des trucs, tu vas forcément entendre parfois tes parents qui parlent autour de la table avec leurs collègues, et c'est des informations en plus, tu vois, c'est toujours du bonus par rapport à d'autres personnes qui ne savent pas du tout comment cette profession fonctionne. Tu rajoutes ça et tu multiplies ça sur plusieurs générations, tu rajoutes à ça la possibilité que le chinois de tout à l'heure, celui qui a créé des bébés immunisés au VIH, alors lui déjà il risque de se faire engager par les plus gros proxénètes du monde quoi. Putain, ça serait un film horrible un peu, ou un film porno, je sais pas trop. Un truc genre, imagine un proxénète qui crée un bordel que de personnes prostituées génétiquement créées pour le plaisir des clients. Vous entendez ce pitch sur ce podcast pour la première fois. On va peut-être en faire un film. À mon avis, ça va plus finir en hentai qu'un film normal, mais on sait pas. À la place de l'immunisation au VIH, le mec commence à partir sur « Ah bah tiens, on peut te faire les yeux plus grands, tu vas mieux voir la route par exemple. » Tu vois, pendant qu'à d'autres personnes, il va faire autre chose. À d'autres personnes, il va dire « Tiens, on va te rajouter un doigt, tu coderas plus rapidement pour les enfants d'informaticiens. » Non mais ça va être bienvenu à Gattaca, sauf qu'on y arrive vraiment. C'est ça, je crois qu'on a un problème avec la science-fiction en fait. Comme la science-fiction, c'est très rapproché de du fantastique dans nos esprits, dès qu'il y a un truc dans un film de SF, on se dit forcément ça ne nous concernera jamais. C'est juste un petit truc sympa de fiction pour avoir peur, avoir des petits frissons. Oh, putain de voisins qui viennent présenter leur appart en Airbnb à des putains d'Américains encore. Comme je parle des Américains, on dirait que je suis américanophobe, mais pas du tout en fait. En vrai, moi, je suis un sudiste américain. J'écoute du Lynyrd Skynyrd, j'écoute de la country music, les gars. J'adore ça. Ils sont timides, je trouve, dans mon immeuble, les Américains, qui viennent en Airbnb, tu sais. Je leur dis bonjour et tu vois à leur visage, oh là là, c'est exotique. Il a dit bonjour, tu vois. C'est marrant de se dire que tu peux t'appeler Jean-François, travailler pour HSBC, mais que tu peux être exotique pour quelqu'un dans le monde. Et ça, c'est beau. Je vais vous laisser parce que je dois aller sur une scène, là. Et justement, je vais vous parler rapidement des deux prochains épisodes. Y a un pote qui m'a donné l'idée de mettre, en fait, des morceaux de stand-up que j'ai déjà pu mettre voilà, sur Internet, sur Facebook, YouTube, etc. Mais en fait, de les mettre sur Spotify. Je me suis dit, en fait, quitte à les mettre sur Spotify, autant, pourquoi pas, utiliser mon propre podcast. Et je pourrais avoir, du coup, des épisodes avec simplement du stand-up. Comme ça, je dirais, épisode 4, tiens, c'était mon passage sur... Et justement, Colline, c'était foutu de moi. Colline Claveau-Mégevin, l'invité de l'épisode 2, c'était foutu de moi pour mon sketch, parce qu'il y a eu, genre, 4 likes sur Instagram. Donc, il y a eu énormément de succès pour moi. à 5 likes, je suis ouf, tu vois, sur les antivax. Du coup, voilà, je vais mettre celui-là et je pense que je vais en mettre, voilà, tous les, j'en sais rien, tous les 4 épisodes, tous les trucs comme ça. Je mettrai un petit passage de moi sur scène, vu que de toute façon, c'est l'audio qui compte beaucoup parce que ma scénique est encore beaucoup trop moisie, tu vois, pour avoir un intérêt quelconque, même si, moi, je vous engage quand même à liker ma page Facebook et à voir ces morceaux de stand-up là avec l'option visuelle. Et bref, voilà, je trouvais que c'était une bonne idée d'avoir ça en plus dans mon podcast. Je vous l'avais dit au premier aussi pour expliquer le fait qu'il n'y avait pas vraiment de concept. Ça me plaît de pouvoir mettre des créations qui peuvent au moins un peu se traduire en audio. Et donc j'expliquerai que sur le descriptif, mais je ferai pas d'intro pour ces épisodes-là, je pense. Voilà, ça va être juste le pur stand-up, même si ça dure que 3 minutes. Ce sera un épisode de 3 minutes et c'est tout. Et ce pote qui m'a donné cette idée, voilà, en discutant avec lui, et ben c'était Carter Morgan, un stand-upper américain qui était venu faire à peu près, je sais pas, 9 mois à Paris, qui a fait notamment l'école de clowns à Paris, mais qui a donc écumé toutes les salles de stand-up en anglais à Paris. Et c'est là qu'on s'est forcément rencontrés et qu'on a joué plusieurs fois ensemble. Ce sera l'invité de l'épisode suivant. Alors, c'est un Américain, et donc oui, cet épisode sera en anglais. C'était d'ailleurs c'était le premier tête-à-tête que j'ai enregistré en me disant que ce sera pour ce podcast, mais je le sors que maintenant. C'est là que tu vois, tu te dis, t'as envie de te briser des chaînes du fait de plaire et d'être compréhensible aux gens, mais t'es obligé quand même. C'est pour ça que j'ai pas mis cet épisode en anglais en premier, tu vois. Ça aurait été un peu déroutant, je pense. Si vous ne savez pas parler anglais, bon bah c'est pas grave, vous passerez à l'épisode suivant. Et il y aura Romois qui parlerait comme ça en français et d'autres tête-à-tête avec des gens en français. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de parler à vos amis du podcast, ce serait ultra cool. De liker ma page, de liker la page aussi de Sugar Free. Enfin voilà, de toute façon tout est dans le descriptif, genre mon site est sur le descriptif, donc voilà, faites ce que vous voulez. Envoyez-moi des messages s'il y a des trucs que j'ai dit là aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, j'ai l'impression que j'étais un peu en mood... politico-scientifico-conneries, donc j'ai fait un peu ce qu'on appelle de la bro science, la science de potes à base de dès que tu dis un truc tu dis ouais j'ai lu une étude comme quoi tu vois, l'article de Slate quoi. Cela dit, c'est vraiment vrai ce que j'ai dit aujourd'hui. Et pareil, toujours sur l'Apple Podcast, mettez 5 étoiles, un commentaire cool, comme pour tous les épisodes je vous lâche avec de la musique. Bisous à tous.
Yeah. Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.